Ce soir, c'est la dernière semaine, la semaine 10 du cours Les fondements de la foi chrétienne. Puis ce soir, nous couvrirons trois sujets. Qu'est-ce que la dîme? C'est le premier sujet. Qu'est-ce que le retour du Seigneur? Deuxième sujet. Et le dernier, c'est quels sont les événements de la fin des temps? Alors, nous avons beaucoup de matière pour ce soir. Nous commençons par le premier sujet. Qu'est-ce que la dîme? Parlons d'abord de qu'est-ce que c'est être gestionnaire au sein du royaume de Christ. Avant de parler de la dîme, parlons de notre responsabilité de gestionnaire que chaque chrétien, chacun d'entre nous a reçu de la part du Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens 4, le verset 1 et 2, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Le terme original grec traduit par « dispensateur » signifie « gestionnaire ». C'est le gestionnaire ou l'intendant de la maisonnée. Jésus a utilisé une parabole pour expliquer ce à quoi il s'attendait de nous, à titre de gestionnaire, de ses biens. Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, il est écrit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approche aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Par cette parabole, Jésus nous fait comprendre que nous lui sommes redevables pour tout. Ici, il est question de biens matériels et d'argent. Mais ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous voyons que nous sommes également redevables pour notre temps, dans Éphésiens 5, verset 16, pour nos talents et nos dons, dans 1 Pierre 4, verset 10, pour notre vie et notre santé, dans Actes 17, verset 28, et pour toutes choses, dans 1 Corinthiens 11, verset 12. La première qualité d'un bon gestionnaire chrétien, c'est de reconnaître que tout ce qu'il a vient de Dieu, qui en est le véritable propriétaire. Tout comme cet homme qui confia ses talents à ses serviteurs, toutes nos capacités et nos possessions nous sont prêtées par Dieu et nous devons bien les administrer. Comme c'est écrit dans Luc 16, versets 10 à 12. Bien administrer signifie que nos capacités et nos possessions doivent être utilisées pour servir le Seigneur, c'est-à-dire au bénéfice de son royaume, comme il est écrit dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Dans la parabole des talents, nous voyons aussi que chacun est responsable et redevable devant le Seigneur pour la gestion de ce qui lui a été confié. Et c'est écrit également dans Romains 14, verset 12. Cette parabole nous montre la destinée des serviteurs fidèles et celle des serviteurs infidèles. Des bénédictions attendent ceux qui administrent fidèlement ce qu'ils ont reçu du Seigneur. D'autres passages des Saintes Écritures vont dans le même sens. Par exemple, Proverbe 3, versets 9 et 10, et Malachie 3, les versets 8 à 10. Par contre, pour le serviteur infidèle, eh bien, on voit que sa part est dans les ténèbres du dehors. Maintenant, revenons à la dîme. Regardons de plus près de quoi il s'agit. Est-ce que c'est vraiment important aux yeux du Seigneur? Les évangiles contiennent plus de références à l'argent que sur aucun autre sujet. Rappelons que le seul des apôtres à avoir chuté est Judas Iscariote, qui a trahi Jésus-Christ pour de l'argent. C'est dans Matthieu 26, les versets 14 à 16. Alors, on disait donc, est-ce que c'est important, la question de la dîme pour le Seigneur? On disait que les évangiles contiennent plus de références à l'argent que sur aucun autre sujet. Rappelons que le seul des apôtres à avoir chuté, c'est Judas Iscariote. Il a trahi Jésus-Christ pour de l'argent. C'est dans Matthieu 26, les versets 14 à 16. Puis le premier péché relaté dans l'Église primitive, bien, c'est un péché d'hypocrisie face à un don d'argent. C'est l'histoire d'Ananias et de Saphira dans Actes 5, les versets 1 à 10. L'apôtre Paul a fait une mise en garde contre l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux, dans 1 Timothée 6, les versets 7 à 10. Maintenant, que signifie le mot dîme? Il signifie la dixième partie, ou si vous préférez, 10 % de la totalité. C'est donc 10 % de nos revenus que nous payons à Dieu. Quelle était l'importance de la dîme dans l'Ancien Testament? Bien, avant même la loi, le principe de la dîme existait déjà. Nous avons l'exemple d'Abraham, qui donna la dîme à Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut. La référence est dans Genèse 14, versets 18 à 20. Jacob a également promis à l'Éternel de lui donner la dîme de tout. C'est dans Genèse 28, verset 22. Plus tard, sous la loi, la dîme a été ordonnée par l'Éternel. C'est dans Lévitique 27, verset 30. Elle sert à couvrir les frais des ministères, puis la référence est dans Nombre 18, versets 21 à 26. Une dîme additionnelle était même prélevée tous les 3 ans pour remettre aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et aux veuves. C'est dans Deutéronome 14, 27, versets 27 à 29, et Deutéronome 26, les versets 12 à 14. Ne pas payer sa dîme, la Bible dit que c'est voler Dieu. C'est dans Malachie 3, verset 8. Maintenant, quelle était l'importance de la dîme dans le Nouveau Testament? Il y en a qui disent que c'est fini, que c'était juste dans l'Ancien Testament. Voyons ce qu'en dit le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais aboli le principe de la dîme, et l'Église primitive payait la dîme. Abraham est même donné un exemple dans Hébreux 7, versets 4 à 10. Alors, si donc Abraham donna sa dîme volontairement au sacrificateur Melchisédek, ne devrions-nous pas la donner sans contrainte à Jésus-Christ, notre bien-aimé sacrificateur et roi de toutes choses? Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, nous sommes exhortés à donner avec joie. Et dans 1 Corinthiens 16, verset 2, nous sommes exhortés à donner selon nos moyens. Vous pouvez aussi lire 2 Corinthiens 8, versets 11 à 15 à ce sujet. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons sous la dispensation de la grâce. Tout ce que nous faisons, y compris payer la dîme, nous le faisons par amour et selon la conviction du Saint-Esprit, et non sous la condamnation et par crainte. Nous donnons nos dîmes et nos offrandes selon le principe de la semence et de la moisson, qui se voit partout dans la Bible et qui est encore en vigueur aujourd'hui. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Vous pouvez aussi lire Galates 6, les versets 7 à 9. Quelle est la différence maintenant entre la dîme et l'offrande? Une offrande, c'est un don qui n'a aucun lien avec la dîme. L'offrande est donnée selon ce que le Seigneur demande, comme il est écrit dans le psaume 96, versets 7 et 8. Ne pas faire d'offrande, par contre, c'est aussi voler Dieu, nous dit Malachie 3, verset 8. Dans l'Ancien Testament, des offrandes ont été données pour la construction du tabernacle, dans Exode 35, versets 4 et 5, et Exode 36, versets 2 à 7. Dans le Nouveau Testament, des offrandes étaient données pour le support de l'Église primitive. On voit ça dans Actes 4, les versets 36 et 37, dans Philippiens 4, les versets 15 à 18. Les dîmes et les offrandes sont ordonnées dans les deux alliances, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Puis aujourd'hui, bien, elles permettent de subvenir aux besoins matériels de l'Église locale, d'envoyer ou de supporter des missionnaires, d'aider les chrétiens dans le besoin, de soutenir les ministères au sein de l'Église locale et d'autres besoins de ce type. Maintenant, il y a beaucoup de fausses idées concernant la dîme. Nous allons en voir quelques-unes. Nous allons en voir cinq. La première fausse idée. Les gens devraient pouvoir emprunter leur dîme en temps de besoin et payer plus tard. Autrement dit, je retiens ma dîme parce que j'ai de la misère à arriver, puis plus tard, je vais la remettre, mais par petit peu, là, jusqu'à temps que j'aille tout rembourser le Seigneur. Mais Dieu dit que la dîme lui appartient. Puis si elle est empruntée, elle doit être remboursée avec intérêt. C'est écrit dans Lévitique 27, les versets 30 à 33, et Malachie 3, verset 8. Alors, ce n'est pas payant. Payez votre dîme plutôt que de la retenir. Deuxième fausse idée. Les gens devraient pouvoir spécifier à quoi ils désirent que leur dîme soit utilisée. Dieu dit que la dîme appartient à sa maison pour son service. C'est spécifié, ce n'est pas comme les offrandes. Et ça, c'est en Nombre 18, versets 21 à 24, 1 Corinthiens 9, verset 14. Troisième fausse idée. Les gens devraient pouvoir donner où ils veulent. Au lieu de donner à l'Église, donner à un ministère, donner à l'extérieur, Dieu dit que la dîme appartient à l'Église locale. C'est dans Deutéronome 12, versets 5 et 6, versets 13 et 14, dans Malachie 3, 10, la première partie, 1 Corinthiens 16, les versets 1 et 2. La quatrième fausse idée, les gens ne devraient pas donner s'ils n'ont pas les moyens. Mais Dieu dit que la dîme, c'est un acte de foi et même un sacrifice. Et c'est dans Malachie 3, verset 10, la dernière partie, et Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas l'écluse des cieux pour vous. Alors, c'est une épreuve de foi. Cinquième et dernière fausse idée, les gens devraient pouvoir donner ce qu'ils peuvent donner et pas nécessairement 10 % car Dieu regarde au cœur. Dieu dit que ce que nous donnons et comment nous le donnons est important pour lui. Pas seulement l'intention ou le désir, mais l'action, la démonstration concrète de notre foi. Et c'est dans Marc 12, versets 41 à 44, 2 Corinthiens 9, verset 7. Nous sommes rendus à notre deuxième sujet. Qu'est-ce que le retour du Seigneur? Dans Actes 1, versets 9 à 11, il est écrit « Après avoir dit cela, il, on parle de Jésus, fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On a ici la promesse de son retour. Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel et assis à la droite de Dieu. Mais il a promis qu'un jour il reviendra. Puis son retour va s'effectuer en deux temps, en deux étapes. Dans un premier temps, Jésus-Christ reviendra chercher son Église. Cet événement est appelé l'enlèvement de l'Église. Dans un deuxième temps, Jésus-Christ reviendra pour vaincre ses adversaires et établir son règne sur terre pendant 1000 ans. Nous allons voir brièvement ces deux étapes. Première étape, l'enlèvement de l'Église. Où est la promesse de cet événement? Dans Jean 14, versets 1 à 3, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est Jésus qui parle toujours. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où il est, c'est au ciel. Donc, pour nous emmener au ciel. Ça, c'est la promesse. Et cette promesse concerne uniquement les chrétiens nés de nouveau qui seront demeurés fidèles jusqu'à la fin. Les autres, malheureusement, seront laissés derrière et subiront la colère de Dieu qui s'abattra sur la terre. C'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. Maintenant, comment l'enlèvement se produira-t-il? Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 18, nous avons la description. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Les morts en Christ. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles de consolation. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 51-53, la révélation est complétée. Il est écrit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Ça, c'est pour ceux qui sont restés vivants. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Un corps qui est immortel, qui ne meurt plus, et un corps incorruptible, qui ne se corrompt plus, qui n'est plus malade, qui n'est plus faible. Ces deux passages nous apprennent que le Seigneur ne posera pas son pied sur la terre lors de l'enlèvement, mais qu'il va rester sur la nuée. Et c'est nous qui allons aller à sa rencontre dans le ciel. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, le terme original grec traduit par « enlever » signifie « arracher ». Il exprime la soudaineté de l'événement. Ce que nous retrouvons aussi dans 1 Corinthiens 15, 52, par l'expression « en un clin d'œil ». C'est vite en un clin d'œil. Les morts en Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui sont décédés depuis l'ascension de Christ et qui sont présentement déjà au ciel en sa présence, ils vont ressusciter avec un corps glorifié. Et quant à ceux qui seront vivants au moment de l'enlèvement, leur corps sera transformé instantanément. Puis après cette transformation du corps des morts et des vivants, bien nous, tous ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. De là, le Seigneur va nous emmener au ciel, dans la demeure qu'il nous a promise et qu'il est en train de nous préparer présentement. Comment cela est-il possible, toute cette transformation et cet enlèvement? Cela ne défie-t-il pas toutes les lois naturelles? Oui, effectivement, mais Dieu est souverain. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit, la même qui a ressuscité Jésus, que le corps des justes sera ressuscité et transformé. C'est ce qu'affirme Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 14. L'apôtre Jean confirme que nous serons transformés pour être rendus semblables à Christ dans 1 Jean 3, verset 2. Notre corps revêtira l'immortalité et l'incorruptibilité. Alléluia! Maintenant, quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Beaucoup de gens se posent la question. Quand ça va avoir lieu, l'enlèvement? Bien, la réponse est dans la Bible. C'est dans Matthieu 24, 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Vous pensez que j'étais pour vous donner l'heure et le jour? Et non, c'est impossible. On a la réponse quand même. La réponse est là. Il est impossible de connaître la date exacte de l'enlèvement de l'Église. Par contre, nous pouvons savoir où cet enlèvement, cet événement se situe par rapport aux événements de la fin des temps. Puis à ce sujet, il y a trois positions parmi les chrétiens. La première position, c'est que l'enlèvement aura lieu à la fin de la grande tribulation. Mais dans la Bible, il n'y a aucun passage qui soutient cette affirmation. Et il y a peu de gens qui y croient, d'ailleurs. La deuxième position, c'est que l'enlèvement aura lieu au milieu de la grande tribulation. Puis les partisans de cette position s'appuient sur l'expression « à la dernière trompette » que nous avons lue tantôt dans 1 Corinthiens 15, 52. Ils comparent cette dernière trompette à la septième trompette du livre de l'Apocalypse. La septième trompette annonce les terribles jugements qui vont tomber sur la terre après 3 ans et demi du début de la grande tribulation. Mais ceci n'est pas possible, Car lorsque la première épître aux Corinthiens fut rédigée, l'apôtre Jean n'avait pas encore écrit l'Apocalypse. Donc, les Corinthiens ignoraient l'existence des sept trompettes. Puis, le fait que Paul ait employé l'article défini « la dernière trompette » démontre clairement qu'il s'attendait à ce que les Corinthiens comprennent ce qu'il disait. Puis, les seules trompettes que les Corinthiens connaissaient sont celles de l'Ancien Testament, surtout celles de la fête des trompettes, qui est le Nouvel An juif. La dernière trompette se rapporte à cette fête. Et justement, la coutume juive de donner une série de petits sons de trompette qui se terminait par la grande sonnerie de trompette. Et c'est ce que Paul veut dire par la dernière trompette. C'est cette grande sonnerie de trompette à la fin. Comme tous des petits coups, tout, pendant tout. C'était ça, à ça que Paul faisait référence. Puis son argument, c'est que l'enlèvement sera l'accomplissement de la fête des trompettes. Puis la troisième position, c'est que l'enlèvement aurait lieu avant la grande tribulation. C'est notre position et c'est celle de la majorité des chrétiens. Plusieurs passages de la Bible soutiennent cette position. Par exemple, l'Église n'est citée dans aucun verset qui traite de la grande tribulation, tout simplement parce qu'elle n'est plus là. Elle est au ciel. Nous avons la promesse d'être délivrés de la colère de Dieu dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, où il est écrit « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Cette expression « colère à venir » représente la grande tribulation. Christ revient dans le but précis de libérer l'Église de cette terrible période de souffrance et de tourment qui aura lieu sur terre pendant 7 années. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3, il est écrit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Cette expression, le jour du Seigneur, s'applique toujours à la grande tribulation. Et dans le même passage un peu plus loin, au verset 9, c'est écrit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » La colère dont il est question ici fait référence au verset 2, au jour du Seigneur, donc à la tribulation, à la grande tribulation. L'Église n'est pas destinée à vivre la grande tribulation. Dans Apocalypse 3, verset 10, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » On parle ici de la grande tribulation. Ce passage ne dit pas que l'Église sera seulement protégée pendant le jugement. Il déclare clairement qu'elle sera préservée de cette heure précise du jugement, de ce moment spécifique. Si, comme certains le prétendent, ce passage sous-entend seulement que l'Église sera protégée pendant la grande tribulation, bien, il y a quelque chose qui cloche, parce que des saints seront tués à grande échelle pendant cette période de jugement. On les retrouve dans Apocalypse 6, versets 9 à 11. Ces saints ne font pas partie de l'Église qui aura déjà été enlevée. Ce sont ceux qui donneront leur vie à Christ pendant la grande tribulation. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'enlèvement était perçu comme sur le point d'arriver. Alors imaginez aujourd'hui combien nous sommes proches. Chaque jour qui se termine nous rapproche de cet événement qui peut arriver à tout moment. Nous venons de voir la première étape du retour du Seigneur, qui est l'enlèvement. Maintenant, voyons la deuxième étape, qui est le retour du Seigneur sur terre et son règne de 1000 ans. Apocalypse 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont perçu, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. La deuxième étape du retour du Seigneur se situe à la fin de la grande tribulation. À ce moment-là, Jésus-Christ posera son pied sur la montagne des Oliviers vis-à-vis de Jérusalem. C'est écrit dans Zacharie 14, verset 4. Il vaincra tous ses ennemis et établira son règne de justice et de paix sur la terre pendant une période de 1000 ans. C'est pour ça qu'on l'appelle millénium, pendant 1000 ans. Et on retrouve ça dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, et Apocalypse 20, le verset 2 et le verset 6. Nous voilà rendus à notre troisième et dernier sujet de ce soir. Quels sont les événements de la fin des temps? Qu'est-ce que la fin des temps? Certains pensent qu'elle a débuté avec l'ère moderne, donc qu'elle débutera pendant la Grande Tribulation. Mais la Bible, qui couvre l'histoire de l'humanité d'un point de vue divin, de la création de l'homme jusqu'à la fin, elle mentionne que le début de la fin des temps, c'est avec la naissance de Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus-Christ est né que la fin des temps a commencé. Avant que Jésus-Christ arrive, tout l'Ancien Testament, c'était des prophéties sur le Messie à venir. Donc, il ne pouvait pas avoir de fin des temps. Il fallait que le Messie vienne. Mais à partir du moment que le Messie est venu, quand il est né, on a commencé la période que la Bible appelle « fin des temps ». Il serait fastidieux de décrire de manière détaillée les événements de la fin des temps. Mais nous allons faire un survol général. L'important, c'est de voir la chronologie des événements. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, le premier événement, comme on disait, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et cet événement inaugure une ère nouvelle, celle de la nouvelle alliance sous la grâce de Dieu. Puis le deuxième événement se situe ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui confirme et scelle cette nouvelle alliance par son sang versé à la croix et sa résurrection. Et le troisième événement, ici, c'est l'ascension de Christ, qui préfigure l'enlèvement des croyants. Le quatrième, c'est la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, qui donna naissance à l'Église. Le cinquième, ici, c'est la période de l'Église, qui commence au jour de la Pentecôte et qui se termine à l'enlèvement. Donc, le sixième événement ici, c'est l'enlèvement de l'Église, dont nous avons déjà parlé. Le septième, pendant que nous sommes au ciel, en bas, c'est la grande tribulation sur la terre, qui va durer 7 années. C'est une période de jugement terrible qui tombe sur la terre et sur ses habitants. Elle durera 7 années. Dieu, dans sa bonté, limitera sa durée, sinon personne ne pourrait y survivre, tellement ça va être horrible. Puis le signe initial de la grande tribulation, c'est un traité de 7 années de paix qui sera signé par l'Antéchrist. Cet événement sera précédé par la guerre que l'on appelle Gog et Magog dans la Bible. Le huitième événement, qu'on appelle la parousie, ou retour du Seigneur sur la terre. Cette fois-ci, Christ posera son pied sur la terre, comme on a vu tantôt. Puis cet événement arrivera au moment de la grande bataille appelée Armageddon. Jésus va anéantir ses ennemis, puis il va juger les nations. C'est aussi à ce moment-là que les saints de la grande tribulation et ceux de l'Ancien Testament vont ressusciter avec un corps glorifié. Le neuvième événement, c'est le millénium. Satan sera jeté, sera lié et jeté dans l'abîme. Il ne pourra plus tenter les hommes. Ce sera un règne de justice et de paix qui va durer 1000 ans. Jésus-Christ sera le roi souverain. Son trône sera à Jérusalem, puis les saints vont régner à ses côtés. Le dixième événement, c'est Satan qui est délié. Il est délié, puis cet événement se situe à la fin du millénium. Satan va séduire des peuples qui monteront contre Jérusalem pour faire la guerre à Christ et aux saints. Ils seront vaincus et détruits. Satan sera jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Le onzième événement, c'est le jugement du grand trône blanc, appelé aussi jugement dernier. La terre et le ciel vont disparaître. Les impies de tout temps ressusciteront avec un corps immortel, mais non glorifié. Ils subiront leur jugement et seront jetés dans l'étang de feu pour l'éternité. Douzième et dernier événement, un nouveau ciel et une nouvelle terre vont apparaître. La Jérusalem céleste descendra sur cette nouvelle terre. Les justes y vivront éternellement. Ce sera littéralement le ciel sur terre. Il n'y aura plus de mort, de pleurs, de douleurs, de maladies, d'injustices, de méchanceté, toutes choses semblables. Ce sera vraiment le bonheur pour l'éternité. Il est bon de connaître ces choses et de s'y attacher, parce que c'est notre avenir. Ça vaut la peine de persévérer jusqu'à la fin. Alléluia! J'aimerais revenir sur un point qui a été soulevé la semaine dernière, celui de la télévision. La télévision, tout comme la radio, l'ordinateur, l'Internet, Facebook, ce sont des technologies. Ce sont des technologies et des moyens qui n'ont en soi aucune valeur morale. Ces technologies sont ni bonnes ni mauvaises. Ce qui est bien ou mal, c'est l'utilisation qu'on en fait et le temps qu'on y consacre. L'Internet peut servir à véhiculer de la pornographie, mais il peut aussi servir à répandre l'Évangile. C'est ce que nous faisons ici à notre Église à travers notre site Web. C'est aussi ce que fait l'évangéliste Mario Mascotte. L'Internet peut servir à répandre de fausses doctrines, comme le fait Benny Hinn, mais il peut aussi servir à rectifier les erreurs et à dénoncer les fausses doctrines, comme le fait Raymond Bourgier. Il n'est pas mal de regarder la télévision pour s'informer ou relaxer. Donc, il faut sélectionner attentivement le contenu de ce qu'on regarde ou écoute, mais il faut aussi restreindre le temps qu'on y consacre. Car même s'il y a de bonnes émissions d'information, notre temps doit prioritairement être consacré à Dieu, à notre famille et à l'Église. Cela étant dit, certains chrétiens reçoivent la conviction par le Saint-Esprit de cesser de regarder la télévision ou d'utiliser Internet. C'est correct. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit d'une conviction personnelle, donnée par le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire une règle ni essayer d'imposer aux autres chrétiens la conviction que l'on a reçue du Seigneur. Tout comme ce n'est pas un homme qui nous a convaincus, mais le Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans chaque croyant. Peut-être que Dieu ne demandera pas à mon frère de renoncer à la télévision, mais de renoncer à autre chose. Par exemple, personnellement, je n'ai pas la conviction de renoncer à la télévision, mais j'ai reçu la conviction par le Saint-Esprit de renoncer aux boissons alcoolisées et au vin. Même juste un verre de vin en mangeant, même un demi-verre de vin, j'ai reçu la conviction. Beaucoup de chrétiens boivent occasionnellement du vin. Je n'essaie pas de les convaincre de ne plus en boire. Si on m'en offre, je dis non merci, c'est tout. Parce que c'est l'affaire du serviteur et de son maître. En autant que mon frère ou ma soeur ne tombe pas dans le péché, parce que c'est sûr que s'il se met à s'enivrer, à boire démesurément, bien là, c'est mon devoir de l'exhorter en douceur et avec amour. Lorsque nous avons parlé de la sanctification durant la semaine 3, nous avons expliqué que nous marchons tous dans le même chemin qui nous amène à notre union avec Christ. Sur ce chemin, nous ne sommes pas tous rendus au même endroit et c'est le Seigneur qui nous guide tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est différent pour chaque personne. Il faut faire attention de ne pas mettre des fardeaux sur le dos de nos frères que Dieu lui-même ne met pas. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. Je termine avec un passage des Écritures à ce sujet qui est Romains 4, versets 1 à 5. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Remarquez qu'on a parlé d'opinion, on n'a pas parlé de doctrine ici. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Si on a une règle à établir, ce serait celle-là. Avoir une pleine conviction par le Saint-Esprit. Amen.